Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Transistor, et ce jeudi 7 mai, nous sommes toujours en confinement pour cette quatrième édition dématérialisée du journal radiophonique Amplifié. Il est 20h et c'est l'heure de l'actu mixée, égalisée, montée, et toujours aussi dématérialisée qu'amplifiée. Au dehors, l'actualité continue, et ce soir, comme tous les jeudis une semaine sur deux, nous allons à sa rencontre avec toute l'équipe de Transistor. Nous retrouvons tous nos chroniqueurs et chroniqueuses avec au programme, drone, inégalité d'accès à l'eau, sortie musicale du moment, du sport, des jeux géographiques, des lobbies, un film et des podcasts. Bienvenue à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Et on commence avec quelques nouvelles nationales et je vais vous donner quelques chiffres. 110 milliards d'aides vont bientôt être distribuées aux entreprises affectées par la crise sanitaire. 110 milliards qui s'ajoutent aux 100 milliards initialement prévus dans le budget 2020 de l'État. De ces 210 milliards donc, cela ne vous étonnera pas, une grande partie a été et sera captée par les grands groupes. Le 25 avril déjà, Air France, dont les pertes économiques sont apparemment lourdes, a reçu de l'État 7 milliards d'euros pour maintenir son activité. Des lignes intérieures vont d'ailleurs reprendre dès le 11 mai. Quel mal alors peut-on voir à ce socialisme de crise? Ces aides, malheureusement, ne sont soumises à aucune contrainte écologique ou sociale. À peine demande-t-on aux entreprises de respecter leurs objectifs de responsabilité sociale et environnementale. Sans contrôle, bien sûr. Et il en est de même, autant pour les aides exceptionnelles que pour les aides habituelles. Et Mathilde fait un point sur la productivité.
Oui, les lobbies s'activent contre les normes environnementales pour la reprise de la productivité. En cette période de crise économique et sanitaire, les lobbies productivistes mènent une véritable bataille idéologique, selon Maxime Combes, interrogé par Reporter. Le porte-parole d'Attaque montre qu'il y a différentes initiatives prises par le monde patronal pour continuer d'influencer la loi en leur faveur. Business Europe, par exemple, le syndicat patronal européen, a demandé une suspension des législations et consultations environnementales dans un courrier adressé au commissaire européen Frans Timmermans, chargé de la lutte contre le réchauffement climatique. À l'échelle nationale, le MEDEF a écrit une lettre à Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, pour requérir un moratoire de 6 mois sur, je cite, « la préparation des nouvelles dispositions énergétiques et environnementales ». Le président du syndicat patronal y déclare ainsi « Notre priorité aujourd'hui est de surmonter la crise et de travailler à la survie de nos entreprises. Des lobbies qu'on aurait bien envie de congédier en travaillant à notre propre survie. »
Merci Mathilde, et Victor va maintenant nous parler de drones.
À Paris, la surveillance du confinement par drone policier a été approuvée par la justice. Le tribunal de Paris, en effet, a rejeté le recours déposé par la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net, qui s'inquiétaient entre autres de l'exploitation des images captées par drone. Le jugement mentionne que rien ne permet au drone d'identifier les individus au sol et que les images ne sont pas recoupées avec les fichiers de police. Plusieurs éléments continuent néanmoins de poser le problème. D'abord, le recours au drone par les forces de l'ordre n'a pas fait l'objet de débat et ne s'inscrit dans aucun cadre législatif strict. Ensuite, les conditions de stockage des données sont peu encadrées et laissées à la discrétion des opérateurs concernés. Autre problème, la préfecture partage également des images aériennes des bâtiments de Paris sans que l'on sache si elle a obtenu l'autorisation normalement nécessaire de l'aviation civile et alors que la réglementation impose que les drones volent à moins de 300 mètres. Des faits qui n'empêchent pas la surveillance par drone de se généraliser. En avril, un appel d'offres a été lancé pour 600 drones destinés à la police et à la gendarmerie, à surveiller de près.
Et la culture, évidemment, fait partie des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Au téléphone, Clémentine, intermittente du spectacle à la tête d'une association chargée de l'organisation de concerts à Lyon, témoigne « On ne sait pas quand les concerts vont être à nouveau autorisés. Et surtout, je vois tous les agents qui reportent sur 2021 tous les concerts de la rentrée d'automne. Et pire que ça, je vois des agents qui avaient prévu des concerts en février 2021 qui reportent à l'automne 2021. Il y a l'éventualité qu'il n'y ait aucun concert au deuxième semestre. Et en effet, l'OMS, par exemple, a préconisé l'arrêt des concerts jusqu'à 2021. Pour les 274 000 intermittents et intermittentes du spectacle, en particulier, la situation est difficile. Si un collectif s'est monté, le collectif Année Noire 2020, récoltant 170 000 signatures sur une pétition pour défendre les droits des intermittents et intermittentes, le gouvernement semble peiner à comprendre la situation. En effet, si Franck Riester et Muriel Pénicaud ont annoncé le gel du calcul des heures jusqu'à la fin de la période de déconfinement et la prolongation des droits de façon proportionnelle à la durée du confinement, on peut se demander ce qui adviendra de tous celles qui pourront ni reprendre immédiatement faute de répétition, ni reprendre tout court pour cause de mesures sanitaires. Et des violences policières avec Mathilde.
Oui, à Marseille, le 12 avril dernier, deux policiers ont arrêté un jeune réfugié afghan à Marseille. Ils l'ont enlevé, isolé dans un chemin forestier à plus de 30 km de la ville. Ils l'ont violenté, puis abandonné après avoir cassé son téléphone portable. Ils écrivent ensuite une fausse main courante, stipulant qu'ils ont déposé le jeune homme au commissariat pour défaut d'attestation. Les deux fonctionnaires ont été jugés en comparution immédiate hier et condamnés respectivement à 4 ans et 18 mois de prison. Le troisième membre de l'équipe, une adjointe de sécurité, a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Une condamnation bienvenue alors que des cas de violences policières sans saisie de l'IGPN par la suite ont été rapportés dans le cadre des contrôles de confinement.
Qui remarque-t-on depuis le début de la crise? Ou plutôt, qui ne remarque-t-on pas? Des collectifs sonnent la sonnette d'alarme sur l'aggravement des inégalités hommes-femmes pendant le confinement. Les images ne sont pas passées inaperçues. Que ce soit le plateau de CNews, où une poignée d'hommes étaient invités à discuter de féminisme sans imaginer laisser la parole aux premières concernées, ou la une de Paris Match et son conseil de guerre, belle tablée exclusivement masculine, le confinement, c'est l'accroissement de la charge mentale, le rallongement des délais d'accès à l'IVG et la hausse des violences domestiques. Le tout en rappelant que 70% des postes de caissière, des professions du social et de l'éducation sont occupés par des femmes. Les problématiques féministes ne passent pas au second plan pendant la crise. Stop au coronaviril, comme diraient les députés Clémentine Autain et Elsa Faucillon. L'occasion de faire de la pub pour la formation de Nous Toutes, animée par Caroline de Haas, sur les violences sexuelles et les violences au sein du couple. Formation de 2h30, rassemblant 1000 personnes à chaque fois, et dont la prochaine date encore disponible est le 30 mai à 16h. Et on passe à l'international maintenant, et Victor va nous lire une brève de Marie portant sur l'Irak.
Et l'Irak se dote après 5 mois de vide politique d'un nouveau gouvernement qui sera dirigé par Mustafa Al-Kadhim, ancien chef du renseignement. Al-Kadhim a d'abord été journaliste et militant anti-Saddam Hussein et a fondé un complexe de médias pour dénoncer les crimes racistes avant d'intégrer le renseignement dans le cadre de la lutte contre l'État islamique. Il dispose aujourd'hui de réseaux établis aussi bien à Washington qu'à Téhéran et on le dépeint comme un négociateur hors pair et rusé. Des qualités qu'il devra mettre à profit alors que les manifestants continuent de protester contre la classe politique et l'économie très mal en point du pays et que le Covid-19 inquiète fortement les Irakiens. La prochaine séance pour Mustafa Al-Kadhim, faire adopter le budget 2020. Mais le chef du gouvernement a déjà des bâtons dans les roues, puisque les députés ne se sont pas entendus sur le choix de candidats à des postes cruciaux, et que des portefeuilles, comme celui du pétrole ou des affaires étrangères, restent vacants. Tensions géopolitiques, révolte latente dans un pays qui est le deuxième producteur de l'OPEP, mais incapable de fournir eau et électricité à tous ses habitants, les défis du nouveau gouvernement sont de taille.
Et un nouveau gouvernement en Israël aussi, Nicolas.
Oui, ça y est, la Cour suprême israélienne a validé pas plus tard que ce matin le principe d'un gouvernement d'alliance dirigé par Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, une décision attendue depuis à peu près 2 semaines, date où un accord de principe avait été conclu entre les deux hommes forts du moment de la scène politique en Israël. Histoire un peu compliquée car peut laisser entendre que le Likoud d'extrême droite de Netanyahou et la formation centriste bleu-blanc de l'ex-chef de l'armée Benny Gantz, qui ont cultivé une opposition mettant quasiment le pays en paralysie exécutive pendant plusieurs mois, allait s'entendre. La raison officielle de ce mariage, la crise du coronavirus, justifiant, malgré les accusations accablantes de corruption envers Netanyahou, l'urgence de trouver une solution bête et méchante, former un gouvernement d'union où les postes seraient équitablement partagés entre les deux parties. Les perdants, eh bien, tous les modérés, tous les partis qui voulaient au moins faire évoluer la position d'Israël dans le conflit israélo-palestinien. Ici, au contraire, L'accord entre Netanyahou et Gantz prévoit aussi l'annonce à partir du 1er juillet d'un plan pour la mise en œuvre du projet du président américain de Donald Trump sur le Proche-Orient qui prévoit l'annexion par Israël de la vallée du Jourdain, une portion de terre stratégique et de colonies juives en Cisjordanie occupée depuis 1967. Affaire évidemment scellée, mais à suivre.
Et après ces quelques nouvelles de l'international, on revient vers chez nous car à 20h13, c'est l'heure du billet d'ici de Nicolas.